Chapitre 10. Tony déposa Agatha à Mercer où celle-ci reprit sa voiture pour rentrer chez elle. Elle sortait de son véhicule quand elle sentit une menace peser sur elle. Elle demeura un moment, figée sur place sous l'effet de la terreur. Une voiture s'engagea dans l'Isle Klein. La lumière des phares l'aveugla. La voiture s'arrêta. Charles en sortit. Agatha poussa un grand soupir de soulagement. Cette affaire l'éprouvait nerveusement, lui faisant imaginer les pires choses. Charles la suivit dans le cottage. « Ce n'est pas plutôt ta fiancée que tu devrais raccompagner chez elle ?» demanda Agatha. « Elle m'a rendu ma bague. Suis-moi dans la cuisine et raconte-moi ça pendant que je nourris mes chats. »«
Il n'y a rien à raconter. Elle m'a juste renvoyé la bague par la poste. » »«
Et elle a donné quoi comme explication ?»«
Je ne lui en ai pas demandé. » Je savais déjà, de toute façon.
Tu savais quoi?
Qu'elle me suivait et qu'elle m'a vu dîner avec toi. Elle m'a très certainement filé jusqu'ici et elle a attendu de voir si je restais dormir.
Si tu le savais, pourquoi diable es-tu resté dormir? S'agaça Agatha en sortant le poisson du réfrigérateur. Il haussa les épaules.
Je n'aime pas qu'on m'espionne. Changeons de sujet. Où en est l'affaire?
D'accord, mais avant ça, je me sens coupable. C'est à cause de moi que tes précédentes fiançailles ont été rompues.
Eh bien, elle aussi m'espionnait. Et je déteste qu'on me flique.
Agatha lui raconta sa visite à la salle des fêtes et la demande en mariage de Garrett à Gwen. Qu'a donc cette maudite femme pour que tous les hommes soient fous d'elle?
De l'argent?
Tous les hommes ne sont pas comme toi, Charles.
Oh, la méchante!
C'est vrai, tu es affreusement vénale. Chaque fois que je dîne avec toi, tu te mets à croasser comme un perroquet.
Oh, mon portefeuille, je crois que j'oublie mon portefeuille.
Quoi qu'il en soit, je crois que John en avait après son argent. Mais Garrett, lui, paraît sincère. J'aurais voulu le mettre en garde, mais Tony m'a fait remarquer que ça risquait de faire de moi la prochaine victime.
Elle a bien fait. Et maintenant ?
Agatha disposa du poisson dans deux assiettes qu'elle déposa sur le sol de la cuisine. Je crois que le cadavre de John est caché quelque part. « Où mettrais-tu un corps pour t'en débarrasser ?» Charles poussa un grognement.
« Il peut être n'importe où. Au fond d'un puits, dans une balle de foin, en tes récipients sous terre. Il y a des tas d'endroits. Oublie tout ça, juste pour un soir. Et arrête de couver tes chats comme une mère poule. Prenons plutôt un verre et regardons la télévision. »
Agatha sentit la fatigue lui tomber dessus. Pendant que Charles zappait pour trouver quelque chose à regarder, elle s'assoupit. Charles se leva et retira de la main de son ami une cigarette fumante qu'il écrasa dans un cendrier. Il tomba sur la comédie musicale Sweeney Todd et s'installa confortablement pour la regarder. Presque à la fin du film, Agatha se réveilla en sursaut. Elle se frotta les yeux. « Désolée, j'ai fermé l'œil. Tu regardes quoi ?»«
Sweeney Todd. »«
Ah, l'histoire du gars qui cuisinait ses tourtes avec de la chair humaine. C'est bien ?»«
Pas mal. Tais-toi et laisse-moi regarder la fin. »
Agatha se renfonça dans son fauteuil. Les meurtres de Winter Parva tournaient dans sa tête comme les éclats de verre d'un kaléidoscope. Elle se remit à somnoler. Soudain, l'image de Pixie surgit dans son esprit assoupi.
« Leur tourte à la viande était un vrai délice !» disait la Pixie de son rêve.
Agatha s'éveilla en sursaut. Elle fixa Charles. « Nom d'un salopard à sonnette !» s'exclama-t-elle. « Les tourtes à la viande !»«
Tu as faim ?»«
Non, écoute un peu !» Et si Walt s'était débarrassé de John en découpant son corps en morceaux et en le fourrant dans les tourtes à la viande?
Cette comédie musicale s'est glissée dans tes rêves pendant que tu dormais. Et puis, où Walt aurait-il trouvé le temps? L'enterrement de vie de garçon a eu lieu juste avant le mariage et...
Et des tourtes à la viande ont été servies à la réception. Il a très bien pu y passer la nuit. Il faut que je mette la main sur une de ces tourtes, dit Agatha. Voyons, Tony et moi, il nous connaît. Toi, il a dû te voir en ma compagnie. Phil s'est rendu au village.
Tu es vraiment cinglé. Je suis fatiguée, je vais me coucher.
C'est ça, fiche le camp. Tu ne sers à rien.
Bonne nuit, ma douce. Je viendrai te rendre visite dans ta cellule capitonnée.
Agatha appela Patrick Mulligan. Patrick, je veux que vous alliez demain matin à la boulangerie de Winter Parva, que vous achetiez une tourte à la viande et que vous me l'ameniez au bureau. Je vous expliquerai. Le lendemain matin, quand Patrick revint de Winter Parva, elle fit part de ses soupçons à son personnel. Mrs. Friedman flaira la tourte.
Elle est appétissante et sent comme d'habitude.
N'empêche que je l'emporte tout de suite au laboratoire médico-légal de Birmingham. Je vais mettre le prix pour que le boulot soit vite fait. Je tiens ce qu'ils me disent de quelle viande il s'agit.
Ils vont sans doute me prendre pour une de ces personnes qui craignent qu'on fasse passer de la viande de cheval pour de la viande de bœuf. » Agatha eut beau supplier, elle s'entendit répliquer que les analyses prendraient une semaine. Le temps passant, elle commença à se sentir bête. Par bonheur, elle ne leur avait pas dit qu'elle soupçonnait la viande d'être de la chair humaine. 2 jours avant les résultats de l'analyse, Agatha roula jusqu'à Mercer et décida d'aller boire un verre au George Hotel avant de rentrer chez elle. Assise au bar, elle fut presque tentée de prendre une chambre pour la nuit. Ces derniers jours, une sorte de terreur s'était emparée d'elle. Elle avait comme la sensation d'être épiée. « C'est sûrement la fiancée de Charles qui joue les détectives », se rassurait-elle. Il ne l'avait pas appelée et Agatha ignorait s'il était encore fiancé ou non. Le comptoir étant pris d'assaut, elle emporta son verre et alla s'asseoir à une table dans un coin de la salle. Un homme grand et plutôt beau se retourna sur elle. Agatha sortit son poudrier, mais il faisait trop sombre pour qu'elle puisse voir de quoi elle avait l'air. Elle prit son sac et, laissant son verre encore plein sur la table, alla aux toilettes. Là, elle retoucha rapidement son maquillage. À son retour, le bel homme n'était plus là. Elle prit une gorgée de son verre, puis, ayant décidé qu'elle ne le finirait pas, se dit qu'elle ferait mieux d'arrêter de faire l'idiote et de rentrer chez elle. Elle se leva. La tête lui tournait. Ses jambes ne la portaient plus. Elle chancela jusqu'à la porte. Un bras fort s'était refermé sur sa taille et la soutenait. Peut-être le bel inconnu, songea-t-elle, mais elle voyait flou. On la poussa à l'arrière d'une camionnette blanche. Prise de panique, elle réalisa que quelque chose n'allait pas, mais alors pas du tout. Ce fut sa dernière pensée avant de perdre connaissance. Le lendemain matin, à l'agence, son personnel attendit en vain son arrivée. Tony tenta sans succès de la joindre sur son portable et sur son fixe. Elle téléphona à Charles. Tous les appels étaient en général interceptés par Gustave, son majordome. Au grand soulagement de Tony, c'est Charles qui répondit. Elle lui fit part de son inquiétude. Sachant qu'il possédait un double des clés d'Agatha, Tony le supplia de se rendre à Carsley pour s'assurer que tout allait bien. Tous attendirent, anxieux. Enfin, Charles appela pour dire qu'Agatha n'était pas chez elle et qu'il était clair, à la vue de son lit, qu'elle n'avait pas dormi dedans. Agatha reprit connaissance. Il lui était déjà arrivé d'avoir peur au cours de sa carrière, mais jamais aussi peur qu'en cet instant. Elle était ficelée, bâillonnée et étendue sur des sacs de farine dans ce qui ressemblait à une petite pièce de stockage. Alors qu'elle se tortillait et tirait sur ses liens, ses yeux tombèrent sur une chaussure d'homme. Noire et brillante, c'était exactement le genre de modèle que portait John Hale. La porte s'ouvrit et Walt Simple entra. Avec un grand sourire, il dit à Agatha: « Je fais une vente exceptionnelle de tourte à la viande demain pour le dernier jour de la boulangerie. Et vous serez dans chacune d'entre elles, espèce de vieille chouette !» Il lui décocha un coup de pied dans le flanc et quitta la pièce. Tony et Patrick se rendirent au poste de police. Ils demandèrent à parler à Bill Wong. Attendirent son arrivée en trépignant d'impatience. Bill écouta avec stupéfaction leur récit de la disparition d'Agatha ainsi que la théorie de cette dernière selon laquelle John Hale avait été assassiné et sa chair cuisinée dans les tourtes à la viande.
Elle a lu trop de romans policiers. Si quelque chose lui est arrivé, c'est sûrement Luke Newton qui a fait le coup. Je vais le convoquer pour l'interroger.
Non, il faut que vous alliez à la boulangerie avec un mandat de perquisition, s'énerva Tony.
Agatha a envoyé une tourte à la viande à Birmingham pour qu'elle y soit analysée, fit remarquer Patrick. Pourquoi ne pas appeler le labo?
Ok, laissez-moi gérer ça, fit Bill. Mais Agatha est une spécialiste des théories extravagantes. Je vais d'abord interroger Luke.
À peine furent-ils de retour au bureau que Tony dit « On ferait mieux d'aller à la boulangerie, et sans attendre. » Ils montèrent dans leurs voitures respectives pour se retrouver bloqués à la sortie de Mercer par un camion accidenté. Ils se rongèrent les sangs tandis que de précieuses minutes s'écoulaient. Bill et Alice cuisinaient un Luke Newton renfrogné. Pour la énième fois, ils leur rassuraient n'avoir pas vu Agatha. La porte s'ouvrit. Wilkes invita Bill à le suivre. Une fois dehors, Wilkes dit d'un ton pressant.
« Je viens de recevoir un coup de fil du labo de Birmingham. Il y a de la chair humaine dans cette tourte à la viande. Renvoyez le jeune Newton. Plus vite nous arriverons à la boulangerie, mieux ce sera. »
Les mains d'Agatha étaient liées avec des menottes en plastique. Tournant sur elle-même, elle se mit en quête de quelque chose de coupant. De faibles bruits lui parvenaient depuis la boutique. Si seulement elle n'était pas bâillonnée, elle aurait pu crier.
Elle remarqua une vieille faux calée dans un coin. Elle se laissa rouler, puis étant parvenue à l'atteindre, entreprit de scier l'un des anneaux qu'elle avait au poignet. Ce fut long et pénible, mais ses forces étaient aiguisées par la peur qu'elle éprouvait. Enfin, l'un des anneaux céda. Elle se libéra de l'autre et arracha le ruban adhésif qui lui fermait la bouche. Elle défit les liens autour de ses chevilles. Tremblante et vacillante, elle alla à la porte. Elle était verrouillée. La boutique était désormais silencieuse. Agatha consulta sa montre. L'heure du déjeuner, sans doute la boulangerie était-elle fermée. Un bruit de pas qui approchait. Agatha se cacha derrière la porte. La pièce était plongée dans l'obscurité. Walt entra et s'avança à grands pas vers la pile de sacs de farine. Il se retourna juste à temps pour voir Agatha filer comme une flèche. Avec un cri de rage, il s'élança à sa poursuite. Agatha courut dans la boutique. Là, elle s'empara d'une grosse tourte à la viande et la balança à la figure de Walt. Ce dernier retira les morceaux de farce qui lui collaient au visage. Agatha saisit d'autres tourtes qu'elle lui jeta tout en se dirigeant vers la porte principale qui était fermée à clé. Elle laissa échapper un gémissement terrifié, tandis que Walt s'approchait d'elle, les yeux brillants de haine. « Au secours !» dit Agatha d'une voix faible. Puis rassemblant toutes ses forces, elle hurla « Au secours !» Charles s'était joint aux assistants d'Agatha, qui déboulèrent à la boulangerie à l'instant même où elle poussait son cri. Patrick sortit de sa poche une matraque télescopique. Il brisa le verre de la porte vitrée et y passant la main fit sauter la serrure. Derrière eux, les sirènes des voitures de police remontaient la rue. Quand ses coéquipiers entrèrent dans la boutique, Agatha s'écria « Il est en train de fuir par la porte du fond !» La police débarqua à la seconde où elle prononçait ces mots. Les agents se précipitèrent à l'arrière du bâtiment. Charles serra Agatha dans ses bras. Elle tremblait de la tête aux pieds. « Allons !» murmura-t-il. « Tout va bien à présent. » Mais Walt avait filé. On fouilla en vain la boulangerie et ses environs. Gwen, de retour d'une journée de shopping, fut conduite au poste de police. On eût dit que le village entier s'était donné rendez-vous devant la boulangerie. Plus tard, une enquête serait ouverte pour tenter de découvrir qui était l'agent trop bavard qui avait révélé aux villageois ce qui se trouvait dans les tourtes à la viande. Plusieurs s'étaient mis à vomir, d'autres étaient pliés en deux, la main sur le ventre. La foule commença à se disperser et à se reformer devant le cabinet médical. Bill dit à Agatha, « Vous feriez mieux de nous suivre pour répondre à nos questions. »« Impossible !» gémit Agatha. « Je me suis fait pipi dessus !»« On va vous trouver des vêtements propres, » dit Bill. À son arrivée au poste, Agatha apprit que Gwen avait perdu connaissance et qu'on l'avait conduite à l'hôpital. Avant l'interrogatoire, quelqu'un apporta un sac. On expliqua à Agatha que Charles était passé à son cottage pour y prendre des affaires propres. On lui accorda une pause, au cours de laquelle elle donna un échantillon d'urine, prit une douche et se changea. Wilkes était dans tous ses états. Comment diable cette femme, sans la moindre formation sérieuse d'enquêtrice, avait-elle pu parvenir à la conclusion que feu John Hale se trouvait dans les tourtes? D'une voix lasse, Agatha raconta comment elle était revenue finir son verre au Georges avant d'être prise de vertige. Sa vision s'étant floutée, elle n'avait pu distinguer les traits de la personne qui l'avait entraînée dehors. Quand elle avait recouvré ses esprits, elle était saucissonnée au fond de la boulangerie. À la fin de son interrogatoire, on informa Agatha qu'un agent serait affecté à la surveillance de son cottage. Ce à quoi elle rétorqua qu'après être allée chercher ses chats chez elle pour les confier à Doris Simpson, elle irait dormir au George Hotel. Plus tard dans la journée, elle apprit grâce à Patrick qu'une équipe médico-légale avait découvert une trappe dans le sol de la chambre froide, trappe qui menait à un tunnel donnant dans la ruelle voisine. On en conclut que Walt s'y était caché jusqu'à ce qu'il ait eu le sentiment de pouvoir sortir sans risque. Des jours durant, Winter Parva fut pris dans une sorte de folie médiatique. Ayant déclaré au journal local que John et elle avaient jadis été fiancés, Pixie eut droit à sa photo en première page. Il s'avéra que c'était un mensonge, mais Pixie s'en fichait bien. Elle avait eu son moment de gloire. Agatha enchaînait les interviews, à la grande fureur de Wilkes, qui avait tenté de clamer que seule l'enquête policière avait permis de faire la lumière sur le meurtre atroce de John Hale. Agatha prit une semaine de congé pour se remettre. Elle avait un gros hématome sur la hanche, là où Walt lui avait envoyé un coup de pied et ses poignets étaient meurtris par le frottement des menottes en plastique. Elle avait de plus en plus d'affection pour Charles, qui venait chaque jour lui rendre visite, parler de tout et de rien et lui remonter le moral. Pendant ce temps, les recherches pour retrouver Walt s'étaient étendues à tout le Royaume-Uni ainsi qu'à l'étranger. On instaura un numéro d'urgence. Aux quatre coins du pays, des gens signalaient l'avoir aperçu, mais aucune piste ne permit de le retrouver. L'avant-veille de son départ du George Hotel, Agatha descendit boire un verre au bar juste avant le déjeuner. Elle remarqua l'homme presque beau qui se tenait au bar. Elle fut tentée de l'y rejoindre au lieu de rester assise là, à attendre qu'on vienne prendre sa commande. Mais le souvenir des erreurs qu'elle avait commises par le passé, et de Paul Newton, la dernière d'entre elles, lui revint en mémoire, et elle alla sagement s'installer à une table située au fond de la salle. Elle commanda un gin tonic en regrettant de ne pouvoir fumer. Sans doute, Charles n'allait-il pas tarder à l'appeler. « Ah, ce cher Charles. Mrs. Raisin, vous êtes bien Mrs. Agatha Raisin, n'est-ce pas ?» Agatha leva la tête. Elle écarquilla les yeux. L'homme, presque beau, la regardait en souriant. « C'est bien moi ?» confirma-t-elle. « J'ai lu ce qu'on dit sur vous dans les journaux. Vous êtes une femme très courageuse. » Agatha lui rendit son sourire. « Si vous désirez vous joindre à moi, je vais chercher mon verre. » Agatha ouvrit rapidement son poudrier. Maquillage, ok, mais malheur, elle avait un petit poil au coin de la lèvre. L'homme revint et s'assit à sa table. « Ça a dû être terrible pour vous, » commenta-t-il. « Mais je ne me suis pas présentée. Jeremy Rutherford, enchanté. » « Je suis en train de m'en remettre, » dit Agatha. « Vous habitez Merchester ?»« Non, je vis à Walton Magna, à quelques kilomètres plus au sud. »« Et que faites-vous à Walton Magna ?»« J'ai un magasin d'antiquités. » »« Vous avez toujours été antiquaire ?»« Non, j'ai passé quelques années dans l'armée. J'ai quitté la carrière militaire il y a 2 ans. »« Pourquoi êtes-vous devenu antiquaire ?»« Mon père était un collectionneur. Il est mort il y a 2 ans et m'a légué en plus de sa boutique une demeure bourrée d'antiquités. » Au début, je me suis dit que j'allais tout vendre aux enchères, et puis j'ai pensé, pourquoi ne pas reprendre son commerce et me débarrasser par la même occasion de tout ce bazar qui encombre la maison. Et vous, qu'est-ce qui vous a incité à devenir détective ? Agatha commençait à fanfaronner joyeusement, Jeremy l'arrêta d'un geste. Allons poursuivre cette conversation au restaurant, voulez-vous ? Ils quittèrent la pénombre du bar et entrèrent dans la salle à manger très éclairée. Agatha détailla son compagnon. Il avait des cheveux épais, d'un brun strié de gris, un agréable visage carré, une mâchoire volontaire et une belle allure. Charles se tenait à l'entrée de la salle, s'apprêtant à se joindre à eux. Mais Agatha lui parut si animée et si heureuse qu'il pivota sur ses talons et regagna le bar. Il comprenait qu'Agatha ait besoin de se changer les idées après l'horrible expérience qu'elle venait de vivre. Il aurait tout le temps de découvrir plus tard qui était cet homme. Après déjeuner, Agatha monta dans sa chambre, déçue. Jeremy n'avait pas suggéré qu'il se revoie. Sans doute était-il marié, songea Agatha avec tristesse. Soudain, Carsley, l'affection réconfortante de ses chats et ses conversations avec Mrs. Blugsby lui manquaient. Elle était censée prévenir la police de son retour à son cottage, afin qu'il poste un agent devant sa porte. Mais elle en avait assez de la police. Elle trouvait que Bill Wong aurait pu au moins lui rendre visite. Quant à Wilkes, il l'avait traité comme une criminelle. Agatha régla sa note à l'hôtel, puis elle monta dans sa voiture, sortit une pince à épiler de son sac et retira le poil qu'elle avait au-dessus de la lèvre. Elle constata, stupéfaite, qu'il était minuscule. Or, pendant son déjeuner avec Jeremy, elle n'avait cessé de penser à ce poil rebutant au point de le sentir grossir à vue d'œil. Elle n'avait pas voulu passer aux toilettes, de crainte que des connaissances de Jeremy viennent se joindre à lui. « Espèce de nouille !» se fustigea-t-elle. « Si par extraordinaire un ami à lui s'était pointé, tu aurais pu apprendre s'il était marié ou pas ?» Juste avant de quitter l'hôtel, elle avait appelé Doris Simpson, sa femme de ménage, qui lui avait promis de ramener les chats au cottage. Agatha entra chez elle. Chose peu fréquente, Hodge Boswell, plus habitué à la bouder en l'ignorant après chacune de ses absences prolongées, lui firent la fête. Elle s'assit sur le sol de la cuisine et les caressa. Elle sentait les larmes rouler sur ses joues. Agatha aurait voulu voir surgir un homme fort, qui la prenne dans ses bras et lui dise qu'il veillerait sur elle jusqu'à la fin des temps. Elle se demanda si elle aurait jamais le courage de se remettre à enquêter. Elle se leva et sécha ses larmes. C'était une belle journée de printemps. Elle fit sortir ses chats, s'assit à la table de jardin, poussa un long soupir de soulagement. Un cerisier dressait vers le ciel bleu ses branches chargées de fleurs. Agatha employait un jardinier. La pelouse était tapissée de crocus et il y avait des parterres de jonquilles dans les coins. Le chant d'un merle déferlait depuis les toits. Elle avait le sentiment de ressentir ce que peut ressentir une personne qui, après avoir chuté d'un étage élevé, se rend compte qu'elle ne s'est rien cassé. La vie reprenait son cours.